L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes en 1995. Il est 2h30 du matin et comme toutes les nuits, il y a une maison dans le New Jersey aux États-Unis qui n'éteint pas ses lumières. Dans chaque pièce, les rideaux sont tirés, les volets sont baissés, mais sous les portes, on aperçoit des raies de lumière. Et surtout, on ressent des ondes de basse vibrer contre les murs. Bon, ça se voit pas de l'extérieur. Mais la maison tremble de talent et ne s'arrête jamais de créer. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelqu'un derrière un micro ou un clavier en train de créer le futur son de l'année. En tout cas, c'est ce dont ils rêvent tous et toutes. Et notamment, elle, Melissa Arnett Elliott, aka Missy Elliott. Elle a 24 ans et comme toutes les nuits, elle est debout derrière le micro en train de rapper. À côté d'elle, son ami Timothy s'ambiance derrière son piano. Missy vient de lâcher un couplet incroyable. Alors, il se retourne vers ses potes et tous se mettent à se taper dans les mains et à la féliciter. Certains se resservent un verre, d'autres tirent sur des joints et recrachent des nuages de fumée dans la joie. Bref, ça rit, ça parle fort et c'est une nuit de plus où seule la musique existe, ou presque. Il est 2h30 du matin, c'est l'heure H de mon histoire. Ce soir-là, Missy quitte le studio plutôt que les autres pour aller se coucher. Son ami s'étonne lorsqu'elle lui lâche un « je suis fatigué, insiste pas, Tim », avant de s'en aller. Ça ne lui ressemble pas. Missy, c'est la jeune femme la plus solaire de cette baraque. Son rire est tonitruant, son sourire est large, ses yeux sont rieurs. Elle a de l'énergie pour 10 et un élan de vie qui entraîne le monde avec elle. Alors quand elle quitte la pièce, elle sait que son attitude n'est pas passée inaperçue. Et surtout, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond et qu'elle n'arrive plus à faire semblant. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils jouent de la musique tous les jours et toutes les nuits. Et ce soir, la jeune femme est à bout. Son optimisme, normalement infaillible, est en train de lui échapper. Elle pense à sa mère dans sa petite maisonnette à 500 km de là et son ventre se resserre. Elle ne l'a pas quittée pour ça. À cette pensée, la colère ressurgit et soudain, Missy en est convaincue. Ça ne peut plus durer. Elle ne sait pas encore comment elle va faire, mais demain, elle devra prendre une décision, sans doute la plus difficile de sa vie. Cette nuit-là, allongée sur son lit, Missy ne ferme pas l'œil jusqu'au petit matin. Les pensées et questions se bousculent. Comment elle a pu en arriver là ? Quand son rêve s'est-il transformé en calvaire ? Parce que oui, en 1991, soit 4 ans auparavant, quand Missy a passé la porte de cette maison pour y emménager, c'était la meilleure nouvelle de sa vie. Elle était loin de se douter qu'un soir, ce soir, elle n'aurait qu'une envie, se sauver de là. Missy se redresse sur son lit, se prend la tête entre les mains et réfléchit. Elle sait que quand le jour se lèvera, elle devra passer à l'action et prendre une décision. Envahie de doutes, les images de son passé surgissent derrière ses yeux fermés. Alors, pour mettre son plan en exécution et être sûre de son choix, elle décide de parcourir les dernières années, reprendre là où tout a commencé pour comprendre comment ça a pu foirer. Missy rallume la petite lampe à côté de son lit et se met à écrire. Sur son carnet, elle inscrit la date de 1987. Cette année-là, Missy a 16 ans et est à l'école, à Portsmouth, en Virginie. Cela fait 2 ans qu'elle a intégré son high school et c'est là qu'elle noue de fortes amitiés. Elle traîne dans plusieurs sororités, puis se crée sa propre clique. Une bande de filles avec qui elle passe tout son temps et devant lesquelles elle ne s'arrête jamais de faire le clown. Pour autant, elle réussit facilement. D'ailleurs, on lui fait passer des tests qui révèlent un QI supérieur à la moyenne. Mais elle s'en fiche et n'en fait pas un atout. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est divertir ses camarades. Tout ce qui l'intéresse, c'est de surprendre ses copines avec sa dernière rime, un nouveau couplet de rap ou une punchline hilarante. Elle écrit sur chaque bout de papier qui lui passe sous la main. Elle a sorti les lacets de ses baskets avec ses t-shirts. Bref, elle vit le hip-hop tout le temps, partout. Missy rend même les profs un peu fous, mais il la laisse faire. Elle chahute toujours gentiment et son sens de l'humour séduit tout le monde. Mais pour elle, la musique n'a rien d'une blague. C'est même très sérieux. La preuve, quelques années plus tard, en dernière année de lycée, elle crée son premier groupe avec trois de ses copines. Elles s'appelleront Faisy et... Et mine de rien, les filles ont leur petit succès dans Portsmouth. Elles font des concerts dans des clubs et Missy se régale d'être sur scène. Vêtue de jeans et t-shirts larges, d'un béret ou d'une casquette et d'une paire de grands anneaux argentés, elle danse sur la scène et chauffe le public sans s'essouffler. Et pendant ce temps-là, un peu plus loin dans la même ville, un ado du même âge crée lui aussi son petit groupe de musique. Timothy rassemble ses copains Larry et Magoo et ils décident de s'appeler Surrounded by Idiots, un nom qui montre que eux aussi ont de l'humour. Pour la petite anecdote, sachez que Pharrell Williams, célèbre auteur-compositeur, était dans le groupe à l'origine avant de continuer de son côté. Bref, alors que les filles Faisy chantent et rappent de leur côté, les garçons, eux, rappent aussi. Mais surtout, ils composent des instrumentales. Ils se disent « beatmakers » et pour démarrer et poser des bases solides à leur groupe, il leur faut impérativement une bande démo. Timothy, Larry et Magoo se mettent alors en tête de chercher un studio où enregistrer leurs démos. Mais ça coûte cher. Les garçons ne savent pas comment faire. Un soir, Magoo a une idée. Il rejoint ses copains et, enthousiaste, il leur dit qu'il connaît un groupe de filles, Faisy. Il les adore et il sait qu'elles ont prévu d'enregistrer en studio. Alors pourquoi n'essaierait-il pas de s'incruster à leur session d'enregistrement? Ils pourraient en profiter pour y faire leur démo, non? Timothy et Larry se regardent, perplexes, puis éclatent de rire. Allez, ça se tente. Le lendemain, Missy Elliott reçoit un appel d'un certain Magoo. Toujours ouverte et généreuse, elle leur propose de se rencontrer pour faire connaissance. Faisy rencontre alors les garçons, ils s'installent tous dans la chambre de Missy. Et quelle meilleure façon de faire connaissance qu'en écoutant leur production musicale. Tim fait alors écouter leur dernier son et Missy se lève directement pour s'ambiancer. L'ado devient dingue, tellement elle adore ce qu'ils font. Elle tombe amoureuse des beats, hoche la tête en rythme. Elle s'extasie et demande « Lequel d'entre vous compose ces instrumentales incroyables ?» Timothy, timide, sourit en guise de réponse et Missy s'exclame « Ok, maintenant, on chantera plus que sur tes sons, Tim. » Et comme chaque chose que Missy prononce se concrétise, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils se voient tous les jours pour faire de la musique ensemble. Missy est une machine. Elle invente de nouvelles paroles et chansons toutes les heures. Dès qu'elle entend un morceau de Tim, elle se met à chanter. Tim est choqué par son entrain, sa motivation et sa productivité. Et encouragé par sa nouvelle amie, il prend confiance petit à petit. Stimulé par sa créativité, il ne s'arrête plus de composer. Et, si vous voulez mon avis, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'entre eux, un coup de foudre musical a eu lieu. Missy Elliott sourit avec émotion au souvenir de sa rencontre avec Tim. Dans la grande baraque du New Jersey, l'heure affiche maintenant 4h30. Stylo à la main, au-dessus de son carnet, elle se souvient. Ils passaient leur journée ensemble à faire de la musique, comme ici, comme maintenant. À la différence près qu'ils mangeaient à leur faim et qu'ils étaient heureux. Ici, sa chambre commence à la dégoûter, son ventre gargouille et la colère lui monte à la gorge. Elle a l'impression d'être devenue une usine à morceaux qui ne servent à rien. Aucun single ni album ne voit le jour. Avec Tim et les filles de Faisy, il produit jour et nuit dans une maison dont elle n'ose presque plus sortir. Et tout ça pour un mec qui commence à leur faire peur. Un certain Devante Swing. toute la confiance qu'elle lui portait s'effrite petit à petit. Ses promesses d'avenir, dont il leur parle, n'arrivent jamais et elle n'y croit plus. Devante Swing. Elle, qu'il admirait tellement, comment est-ce possible? L'envie de retrouver sa vie d'avant se fait de plus en plus forte. Ils étaient heureux et rien ne les arrêtait. La culpabilité d'avoir embarqué Tim et les filles dans ce bourbier la ronge. Pourtant, c'était l'opportunité rêvée. Missy revoit les grands yeux écarquillés de Tim le jour où elle débarque chez lui en furie avec un nouveau plan. Un de ses groupes de musique préférés est en concert à Virginia Beach. Dans quelques heures, Joe Desi, les stars du R&B, seront sur scène à une poignée de kilomètres de chez eux. Tim la regarde perplexe en se demandant où elle veut en venir. Et Missy annonce comme si c'était une évidence. « Eh ben, je vais aller à leur concert et après, je leur ferai écouter nos morceaux. Je vais chanter pour eux et ils vont nous signer. Ça va être incroyable, Tim. Je te jure, ce soir, je rentre avec un contrat et la vraie vie d'artiste va enfin commencer. » Autant dire que Timothy n'y croit pas du tout. Mais ça ne désarçonne pas Missy pour autant. La jeune femme de 20 ans n'a qu'une idée en tête et rien ne peut se mettre en travers de sa route. Et effectivement, le soir même, il est passé minuit. Le concert a eu lieu et Missy attend avec son groupe Faisy près du tourbus des artistes. Adossée à la barrière, ses copines commencent à s'impatienter. Ouais, viendront pas. Mais Missy n'en démord pas. Elle ne quittera pas les lieux tant qu'elle n'aura pas chanté devant Joe Desi. L'heure tourne. La nuit se fait de plus en plus noire et finalement, 3 heures d'attente plus tard, une porte s'ouvre enfin à l'arrière de la salle. Des rires sonores remplissent directement la rue et le groupe sort en se bousculant, en riant, bouteille à la main et joint aux lèvres. Comme après chacun de leurs concerts, le groupe a arrosé la soirée et ce soir n'est pas une exception. Missy ne se décourage pas. Ce sont des stars, certes, éméchées, certes, mais elle a une mission. Alors, elle fait des signes pour appeler Devante Swing, le musicien principal du groupe. Elle crie son nom plusieurs fois de suite et enfin, l'homme se retourne et s'approche en titubant légèrement. Habitué aux groupies et enjoué par l'alcool, le leader leur demande ce qu'elles veulent signer. Il les charrie, leur propose sa casquette. Missy sent son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains sont moites. Et ses copines la regardent en se demandant comment elle va s'y prendre. Le temps d'une microseconde, la jeune fille pense à sa mère, à sa force, à sa puissance, avant de demander le plus naturellement du monde. « On est Faisy, on fait de la musique. Est-ce qu'on peut chanter pour toi maintenant ?» Devante Swing les regarde et il accepte. Les filles se regardent, lancent le top départ et elles se mettent à chanter. Derrière les barrières en métal, Missy et ses camarades dansent, s'ambiancent et donnent tout. C'est maintenant ou jamais. Devante Swing hoche la tête en rythme et les coupe avant la fin de leur morceau. Les filles s'arrêtent et se regardent silencieuses en attendant le verdict. Les musiciens se pressent dans le bus et appellent Devante Swing qui se retourne plusieurs fois en leur faisant signe de patienter. Puis enfin, il leur dit « Ouais, c'est bien, c'est cool. Vas-y toi, passe-moi ton numéro, je te recontacte. » Missy retient son souffle. Elle griffonne son numéro de téléphone sur un bout de papier, le temps à Devante Swing et celui-ci s'en va, en les saluant à peine. Les filles quittent la rue, elles aussi, et attendent d'avoir passé le coin pour respirer enfin et pousser des cris de joie. « On l'a fait les filles, on a chanté devant Devante Swing et il a aimé, il a notre numéro !» Dans la foulée, Missy débarque chez Tim et, tout excitée, elle lui annonce que ça y est, un contrat va être signé. Missy y croit dur comme fer. Tim, lui, la félicite, content pour elle. Mais la jeune fille lui tape sur l'épaule. « Mais non, attends, c'est génial pour nous tous, on est ensemble. Nous, on chante sur tes morceaux, donc je te lâche pas. Sur le contrat, il y aura ton nom aussi, crois-moi. »
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise dans votre vie? Réfléchissez. Je suis sûr que vous allez trouver. Des choix, on en fait tous les jours. Des dilemmes qui nous empêchent de dormir et qui nous rendent dingues d'indécision. On en connaît plusieurs, mais la décision de votre vie, celle qui a tout fait basculer. Est-ce que vous avez déjà connu ça ? En tout cas, c'est le cas de Missy Elliott, cette artiste américaine dont la musique a inondé les radios et toutes les chaînes de clips dans les années 1990 et 2000. Aujourd'hui, on connaît Missy Elliott comme une artiste incroyablement talentueuse et innovante dans le monde du hip-hop. On la connaît pour son style unique, son attitude audacieuse et sa créativité débordante. La rappeuse a conquis les cœurs de millions de fans dans le monde entier. Elle a carrément dominé l'industrie de la musique avec ses productions novatrices. Sa présence scénique et surtout une attitude absolument fabuleuse. Bref, on connaît Missy comme une icône. Mais elle a vécu ce dilemme, cette nuit d'insomnie, cette nuit où l'or tourne à la fois trop vite et trop lentement. Assise dans la chambre de cette immense baraque du New Jersey, Missy a mal au ventre, de faim, de colère, de peur. Cela fait maintenant 4 ans qu'elle a débarqué dans cette maison qu'ils appellent « The Basement », un nom qui lui donnait le sourire aux lèvres, qui représentait le lieu de rêve pour les musiciens fougueux qu'ils étaient. Parce que oui, après ce fameux concert où les filles ont chanté devant la superstar Devante Swing, il les a rappelées. Aussi fou que cela puisse paraître, le leader du groupe Joe Desi passe ce coup de téléphone tant espéré à Missy Elliott et lui dit « C'est bon, toi et les filles, je vais vous produire, je vous signe ». La jeune femme de 20 ans saute de joie dans sa petite chambre chez sa mère. Même les posters et tous les textes de rap écrits sur les murs autour d'elle semblent trembler d'excitation. Mais avant de raccrocher, Missy dit « Ok, trop cool, mais il faut que tu signes mon pote Tim aussi. Hein. C'est lui qui fait nos beats. » Et comme chaque chose que Missy prononce, ça se concrétise. Alors quelques semaines plus tard, toute la petite bande quitte leur ville de Portsmouth et débarque dans le New Jersey, sac sur l'épaule, pour s'installer dans cette immense baraque et rejoindre The Basement. Ça y est, la vie d'artiste est lancée. En arrivant sur place, le célèbre et grand Devante Swing leur ouvre la porte et se met à charrier Tim directement. Timothy ? Mais c'est quoi ce nom ? Bon, tu sais quoi ? Vu ton look, t'as l'air sponsorisé par la marque Timberland, alors... On t'appellera Timbaland. Et il ajoute, et vous les filles, fais-y, c'est terminé. Maintenant, vous êtes les Sistas. Timbaland et les Sistas. Ça a de la gueule. Bon. Mais il faut que je vous explique en quelques mots. Qu'en est-il de ce contrat ? C'est quoi, en fait, cette baraque ? Et quel est le plan maintenant ? En fait, Devante Swing a son label et il a créé un crew, The Basement donc, qui est une équipe de compositeurs, chanteurs qui vivent tous sous le même toit pour faire de la musique. Cette maison est un studio géant, rempli d'artistes qui bossent ensemble dans une sorte d'effervescence hyper stimulante et créative. Et évidemment, l'objectif pour tous est que Devante Swing les produise et que leur musique sorte enfin. Alors les filles, maintenant appelés Sista et Timothy, devenus Timbaland, ont posé leur sac dans une chambre et se sont mis à faire ce qu'ils savent faire de mieux, de la musique. Dès le lendemain de leur arrivée, ils se mettent à travailler, jour et nuit, portés par l'émulation de tous les artistes et par l'objectif de sortir un album, Timbaland est plus motivé que jamais. Derrière son petit clavier, qui ne lâche pas malgré tout le matériel auquel il a maintenant accès, il ne s'arrête pas de composer des nouveaux beats pour les filles Sista. Et Missy écrit non-stop. Devante Swing, lui, n'apparaît que de temps en temps. Il enchaîne les tournées avec son groupe et ne passe une tête que sporadiquement, pour les pousser à créer toujours plus, avant de redisparaître. et eux sont déterminés, à tel point qu'ils finissent par aboutir à un album. Un soir, ils sont dans le studio et sont tous d'accord pour dire que ça y est. L'album des Sista avec Timbaland aux instrus est bouclé. Fiers d'eux. Ils ont hâte de le faire écouter à Devante Swing et que le monde puisse enfin écouter leur musique sur des CD. Dans le New Jersey, il est 7 heures et le jour commence déjà à se lever. Missy a l'esprit embrouillé. Toute la maison s'est enfin endormie. Les artistes les plus tardifs se sont enfin couchés. Et elle n'a toujours pas fermé l'œil. Sur son petit carnet, la jeune femme continue de griffonner des souvenirs, mais aussi des points d'interrogation et des listes de solutions possibles. Toutes mènent à une même conclusion. Missy ferme les yeux et n'a envie que d'une chose, se sauver. Cela fait des mois et des mois qu'ils ont présenté leur album à Devante, et pourtant, aucune sortie, rien, nada, nothing. Devante se fait de plus en plus absent, ne donne plus de nouvelles, et surtout, lorsqu'il débarque, il est de plus en plus virulent. Il n'a qu'un mot à la bouche, bosser. Il leur ordonne de composer. Son ton est de plus en plus agressif. Et alors qu'il promettait des singles et des albums, ils n'ont même plus à manger. Cela fait des mois que leurs placards sont vides. Tous les jours, les artistes se retrouvent pour rassembler leurs pièces de monnaie et tenter de s'acheter quelques nuggets de poulet à grignoter. Les jours passent et Missy s'épuise. Ils se regardent tous sans rien dire, mais leurs regards deviennent vides. Ils continuent de travailler, mais l'émulation du début a disparu. Ils ne gagnent pas un centime. Tout le monde est en pilote automatique et Missy a parfois l'impression d'être une esclave à l'usine. L'ambiance est lourde, très difficile. Impossible de savoir ce qui est le plus dur à supporter. Que sa passion soit maintenant source de dégoût et d'épuisement. La désillusion quant à ses rêves de sortir des albums. La découverte du vrai visage de Devante Swing ou le constat d'avoir laissé sa mère pour ça. En Virginie, ses sons ne sortaient pas non plus, mais au moins elle gagnait un peu d'argent et mangeait à sa faim. Et surtout en Virginie, elle ne se faisait pas maltraiter. Elle ne se faisait plus maltraiter. Il est 10 heures du matin. Tout le monde dort encore et Missy est parcourue d'un frisson à la pensée de ce souvenir. Elle remonte la couverture sur ses jambes et ferme les yeux. Des souvenirs de violence qu'elle avait essayé d'oublier lui sont revenus en pleine face hier. Ouais, il y a quelques heures, pour elle qui n'a toujours pas dormi. Dans la journée, alors qu'ils étaient tous en train de travailler en studio, Devante Swing a débarqué et comme d'habitude, il a bousculé tout le monde. Il a mis un petit coup de pression pour qu'il continue de composer et qu'il la boucle. Sauf que cette fois, Devante était plus alcoolisé que d'habitude, ou en manque de drogue, peut-être. Toujours est-il qu'il a bousculé physiquement un des membres du groupe. Des coups sont partis, avant que Devante ne fasse pareil. Il a fait tomber quelques assiettes, renversé une table de mixage, et puis a quitté la pièce et la maison comme si de rien n'était. Depuis, Missy n'a plus décroché un mot. En studio, Timbaland n'a pas réussi à la faire sourire. C'en est trop pour elle. Elle a quitté le studio, rejoint sa chambre et s'est laissée aller sur son lit. Des larmes coulent maintenant en silence sur ses joues. Elle n'a qu'une envie, c'est de prendre ses jambes à son cou et de se sauver. Le bruit des coups résonne dans ses oreilles. Elle serre les dents. Elle s'était pourtant promis. L'heure tourne et sa décision prend forme dans sa tête. Elle va devoir agir parce qu'elle s'était promis que plus jamais elle ne vivrait ça. Le bruit des coups, l'angoisse, la peur au ventre. Prier pour que ça s'arrête et puis l'envie de se sauver à tout prix.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans leur H, je vous raconte l'histoire de Missy Elliott, une grande artiste américaine qui a marqué l'histoire du hip-hop. La rappeuse a remporté 5 Grammy Awards, a vendu plus de 30 millions d'albums. Avec Nicki Minaj et Cardi B, elle est la seule rappeuse à être au moins certifiée 6 fois disque de platine. Ses premiers morceaux sortis dans les années 1990 continuent de nous faire danser aujourd'hui. Bref, que ce soit en solo ou aux côtés de Pharrell Williams, Madonna, Janet Jackson et tant d'autres, Missy Elliott est une icône du rap. Mais avant de devenir cette musicienne reconnue mondialement, Missy a dû faire un choix. Assise sur son lit dans cette immense maison de New Jersey, la jeune femme de 24 ans s'apprête à prendre une décision hyper importante. L'une de celles qui fera basculer sa vie. Une décision indispensable pour se sauver d'une situation qui ravive des souvenirs difficiles qu'elle aurait préféré oublier. Effectivement, Devante Swing, le leader du groupe Jodeci et propriétaire de cette maison, d'Abasement, a débarqué sans prévenir comme souvent. Mais aujourd'hui, la brutalité de ses mots s'est matérialisée par des gestes agressifs. Devante est violent physiquement et le sang se glace dans le corps de Missy Elliott. Alors que les autres filles de son groupe ou les garçons ont réagi, Missy, elle, s'est figée en entendant les bruits des assiettes, des coups. Les souvenirs lui ont sauté à la gorge. Les bruits étaient les mêmes. Des bruits de colère, de fracas, des bruits qu'elle connaît trop bien et qui sont apparus dès sa venue au monde. En 1971, quand Missy est née, elle a atterri à Portsmouth, dans un milieu de classe ouvrière. Le genre d'endroit que l'on ne quitte pas souvent. Les gens y naissent, vont à l'école du coin, à l'église, et s'y marient. Missy est la fille unique de ses parents, Ronnie, son père, un réserviste de la marine qui travaille sur les quais, et Patricia, mère au foyer. Bah, vous l'avez compris, ils ne roulent pas sur l'or. C'est même plus que ça. Leurs conditions de vie sont difficiles. Faute de moyens, ils habitent une petite maison sans eau courante, où les rats rongent les placards. Il n'y a qu'une seule grande pièce dans laquelle ils dorment ensemble, dans des sacs de couchage, parce qu'ils ne peuvent pas payer le gaz. Quand la petite fille fête ses 8 ans, sa mère, Patricia, trouve, avec un immense soulagement, un travail qui leur permet de sortir légèrement la tête de la misère. Patricia sourit et tente d'élever sa fille dans la plus grande joie et douceur possible, mais Missy sait. Elle est extrêmement attachée à sa mère. La connexion entre elles est très forte. Et Patricia sait que la nuit, Missy entend son père lui taper dessus. Terrifiée, Missy sort un œil de son sac de couchage et elle le voit la rouer de coups. Au fond de son lit, la petite a l'impression de recevoir les coups en pleine figure. Alors qu'il n'a jamais levé la main sur elle et qu'elle adore passer des heures à écouter Marvin Gaye avec lui, quand vient la nuit, elle ne le reconnaît plus. Parfois c'est plus fort qu'elle. Et la petite crie et supplie son père de ne pas tuer maman. Et au réveil, la première chose que Missy fait, c'est chanter. Elle ne s'arrête pas de faire des spectacles à sa mère, d'inventer des paroles. Et là, c'est comme si les nuits n'avaient pas existé. Missy rayonne, enchaîne les blagues et fait rire sa mère aux éclats. Un jour, en rentrant de l'école, elle écrit des lettres à Michael et Janet Jackson et, avec ses mots d'enfant, elle leur raconte à quel point elle aime leur musique et termine toujours en leur demandant de venir la sauver. Sa mère achète des timbres en lui souriant, pleine d'espoir. Pourtant la nuit, la violence et la peur continuent. Missy ne s'arrête pas de prier en silence pour que tout ça prenne fin. Et pour la première fois, ses prières sont exaucées. Janet Jackson ne vient pas la sauver, non, mais... Mais un matin de l'année 1984, Missy a 13 ans et part à l'arrêt de bus pour aller à l'école. Comme d'habitude, son père quitte la maison quelques minutes après elle. Il lui fait un signe de la main et Missy chantonne en attendant le bus. Puis soudain, sa mère arrive, lui dit de revenir à la maison. Et là, un van se trouve devant la maison. Pendant une heure de précipitation, mère et fille entassent toutes leurs affaires dans le petit camion avant de prendre la route définitivement. Elle laisse derrière elle une fourchette, une assiette et une couverture. C'est tout. Derrière le volant, Patricia soupire de soulagement. Elle a pris la décision la plus courageuse de sa vie. Enfin, sa petite fille n'aura plus à se soucier pour elle. Missy, elle, remercie en silence sa mère et le ciel de l'avoir entendue. Sa mère s'est sauvée. Elles sont sauvées. Il est 11h et Missy lâche son carnet et son bic. Elle se redresse sur son lit et ça y est, ses doutes ont disparu. Au contact de ses souvenirs, Missy sait que sa décision est prise. Il est hors de question de salir la décision que sa mère a elle-même prise pour se respecter, s'émanciper et leur offrir la liberté à toutes les deux. Ça fait des années que Missy et ses amis travaillent comme des acharnés et qu'ils sont maltraités, pour rien. Ses rêves sont partis en fumée. Elle a l'impression d'avoir vendu son âme au diable pour une carrière qui finalement n'est jamais arrivée. Le déclic, lui, si. Sa décision est prise. Il faut qu'ils se cassent de là au plus vite. Il faut qu'ils se sauvent. Qu'ils se sauvent tous. Missy se lève, se passe un peu d'eau sur le visage et, malgré qu'elle n'ait pas fermé l'œil de la nuit, sa détermination réapparaît plus que jamais. Elle quitte sa chambre, va réveiller ses amis et rassemble tout le monde dans la petite cuisine vide. Autour d'elle, il y a Timbaland, ses copines de Fezzy, bref, tous les artistes de Da Basement. Missy est debout. Elle a retrouvé son âme de leaduse et leur fait tout un speech pour les convaincre. « Hey les gars, on n'avance pas. Vous voyez pas qu'il se passe rien? On crève la dalle, au moins chez nous, on avait à manger. Allez, venez, on se casse à New York, on refera de la musique ensemble, on n'a pas besoin de lui. » Toutes et tous la regardent avec l'envie d'y croire. Elle a raison. Mais aveuglés par l'aura de Devante Swing, qu'ils idolâtrent, ils ont du mal à prendre conscience qu'effectivement, ils se sont fait berner. Bref, Missy leur laisse quelques jours pour se décider. Elle ne veut surtout pas s'en aller sans eux et les laisser là. Mais elle se promet que d'ici la fin de la semaine, elle sera partie. Le lendemain, tout le crew de la baraque reçoit un message de Devante Swing. Juste quelques mots. « J'arrive. Placez-vous devant le studio en ligne. » Missy regarde ses potes avec un mauvais pressentiment. « Est-ce que Devante aurais-tu vent du départ qu'ils sont en train de préparer ?» Apeurés, tous les membres de Da Basement se placent en ligne devant le studio, en silence, raides comme des piquets, comme à l'armée. Missy a des larmes de colère dans les yeux et la mâchoire serrée. Cette situation semble surréaliste et sa prise de conscience des derniers jours rend le moment encore plus insupportable. La rage fait trembler ses sourcils quand Devante arrive, sans rien dire. Accompagné de quatre gars baraqués, Devante s'est immobilisé devant le premier de la file et puis les a giflés, tous, un par un. La folie du mec est terrifiante et son besoin d'humilier sans limite. Après avoir frappé tout le monde, un, sans que personne ne puisse réagir, il leur lâche avec hargne. « Je sais ce que vous préparez, mais personne ne se barre, tout le monde au travail !» Le lendemain, Missy fait son sac et quitte les lieux. Le point de non-retour est atteint pour elle. Et même si, évidemment, à ce moment-là, à 24 ans, elle ne le sait pas encore, ce jour représente la meilleure décision de sa vie. Enfin, si. Elle sait que c'est la meilleure décision de sa vie pour sauver sa peau, humainement. Mais elle ne sait pas encore que c'est la décision qui la propulsera sur les plus grandes scènes, qui la poussera à créer des tubes phénoménaux, qui fera basculer sa vie. Missy Elliott débarque donc à New York, rejointe un peu plus tard par Timbaland et Gene Wine, un autre membre de Da Basement. D'emblée, Missy se remet à faire de la musique. Son enthousiasme, son sourire et sa folie créative sont de retour. Et un jour en studio, elle croise Puff Daddy, qui la reconnaît. Il avait côtoyé Devante Swing et il la reconnaît de son groupe Sista. Il lui annonce qu'il bosse avec une artiste, Gina Thompson, et qu'il veut qu'elle fasse le remix d'un de ses titres, The Things That You Do. Évidemment, Missy accepte. Et en 1996, notre génie du rap lâche sur ce remix un couplet absolument stupéfiant. Le couplet qui lancera toute sa carrière. Et si vous ne voyez pas ce dont il s'agit, allez l'écouter. Vous reconnaîtrez ses petits sons cultes, son « hi 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 » devenu son gimmick. Le public devient fou pour ce passage et Missy se démarque. Les regards se tournent vers elle. On découvre enfin son talent, son originalité. En 1997, Missy sort son premier album, évidemment produit par Timbaland, qu'elle n'a pas lâché. Leur duo est fabuleux et Missy remporte le Grammy Awards du meilleur album rap. La machine est lancée. Missy rayonne, fait rire tout son entourage et surtout, elle ose tout. Elle met son sens de l'humour et sa folie artistique au service de ses clips. Elle met en scène son corps plus gros que ceux des standards que l'on retrouve dans les clips de R&B et secoue le monde du hip-hop en sortant des visuels qu'on n'a jamais vus. Missy ne s'en vante pas. Elle est juste comme ça. Et elle en rit avec sa mère. Si elle est grosse, alors elle le sera encore plus et elle apparaîtra dans un sac poubelle dans son prochain clip, c'est tout. Bref, on pourrait vous parler d'elle pendant des heures. D'une part parce que Missy n'a pas été épargnée et a continué à vivre des moments forts et difficiles. Effectivement, Missy a vécu la perte de sa grande amie, Aaliyah, et ça a été une déflagration pour elle et pour Timbaland. Aaliyah venait de sortir un album sur lequel Missy Elliott et Timbaland avaient travaillé. Tous les trois s'étaient retrouvés autour de ce projet. Ils étaient et se sentaient extrêmement soudés. Mais le 25 août 2001, Missy Elliott a reçu ce coup de téléphone qui la marquera toute sa vie. L'avion d'Aaliyah venait de s'écraser. La jeune femme rentrait des Bahamas, où elle avait tourné son clip avec toute sa team, mais personne n'est sorti vivant de cet accident. Suite à ça, Timbaland est tombé en dépression et Missy s'est effondrée de tristesse. On imagine comme ça a été difficile de revenir avec un autre album après ça, mais ils l'ont fait. Et le titre « Under Construction » en parle avec une justesse incroyable. Let the show begin. This is a Missy Elliott exclusive. The one you run into when your pockets is low. Come on. And you out of cash flow. That's right. And the chicks don't want you no more. Okay. Run into when you got no more gas. Uh-huh. And no funds to catch a cab. And the chicks don't see you no more. Comment se reconstruire après la perte d'un proche et de façon plus large? Comment le hip-hop a-t-il pu perdre autant de grandes figures comme Biggie ou Tupac? Cet événement a donc été dramatique et important pour Missy. Par ailleurs, Missy s'est aussi mise à parler des violences sexuelles qu'elle avait vécues dans son enfance de la part de son cousin, en plus de celles déjà subies par celles de son père sur sa mère. Plus tard, la rappeuse a développé un rouge à lèvres dans le but de reverser tous les fonds à une association contre les violences domestiques. Enfin, comme si c'était trop à supporter pour une seule femme, Missy a aussi dû gérer l'apparition de sa propre maladie. Une maladie si agressive qu'elle a dû s'arrêter de produire. Donc oui, en effet, on pourrait parler d'elle pendant des heures à propos de toutes les tragiques épreuves qu'elle a traversées et de la résilience impressionnante dont elle fait preuve, mais heureusement. D'autre part, on pourrait aussi continuer à parler d'elle pendant des heures, parce que sa carrière est impressionnante et écœurante d'inventivité et de talent. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Amélie Dieudonné.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.